Aujourd'hui, c'est à une autre réalité que nous allons nous intéresser, celle du monde agricole. À la fin du mois, le 27 février, va s'ouvrir à Paris le Salon de l'agriculture. Mais c'est une autre actualité, je dirais, qui nous retient. En fixant le thème de cette soirée, nous ne pensions pas que notre réflexion sur l'avenir du monde agricole ce soir, de l'agriculture dans notre pays, aurait été inscrite dans une actualité aussi forte comme nous avons pu le voir ces deux dernières semaines. Alors certes, l'agriculture française recouvre des réalités très diverses et il est difficile de pouvoir parler de tous les secteurs et de toutes les filières. Pourtant, une grande partie de notre agriculture vit une situation difficile depuis des décennies et l'état de certaines filières semble aujourd'hui s'aggraver. Lait, porc, bœuf, les principales filières de l'élevage français sont en crise sur fond de guerre des prix dans les supermarchés, de surproduction, d'effondrement des cours mondiaux. Alors que le nombre d'exploitations en difficulté ne cesse d'augmenter, eh bien, le monde agricole, nous le savons, est inquiet pour son avenir. Alors, quelles sont les causes de cette situation? Quel bilan tirer de la politique agricole commune? La France doit-elle tourner la page de son passé agricole? Alors que l'agriculture est au cœur de beaucoup d'enjeux que pose le changement climatique, quel modèle nouveau de production semble possible et souhaitable pour répondre aux inquiétudes du monde agricole et aux besoins de notre pays? Pour nous aider à réfléchir et à échanger, je suis heureux d'accueillir nos invités. D'abord, M. Patrice Moyon, qui est journaliste à Ouest-France. Vous suivez depuis des années les questions agricoles, l'évolution du monde rural, et vous avez suivi de près, tous ces derniers temps, la crise qui est particulièrement forte dans l'ouest du pays, mais qui touche beaucoup d'autres régions aussi. Vous nous aiderez à faire un état des lieux de la situation de notre pays, pourquoi nous en sommes arrivés là, mais aussi quelles perspectives d'avenir vous voyez. Merci beaucoup de votre présence. Avec vous également ce soir, Monsieur Marcel Jolivel, qui est exploitant agricole en Bretagne, aux confins de l'Ille-et-Vilaine et de la Loire-Atlantique, dans une zone traditionnellement de polyculture-élevage, mais une zone qui a beaucoup évolué. Votre exploitation, elle aussi, a connu de grands changements. Exploitation familiale que vous avez reprise en 1981 pour faire de l'élevage. Vous avez été frappé par différentes crises, la crise notamment des quotas laitiers et l'augmentation du prix des céréales. Et vous vous êtes peu à peu amené à vous interroger sur ce modèle agricole et ses contraintes de plus en plus fortes. La décision également de vos enfants et de leurs compagnons, avec leur propre conception, conviction de s'engager dans l'aventure agricole sur les terres familiales, a aussi, je crois, contribué à réfléchir et à bouger. C'est votre témoignage que vous nous donnerez tout à l'heure, votre parcours, mais aussi comment vous voyez cette crise et les moyens d'envisager l'avenir. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce soir. Voilà, il est temps de vous laisser la parole. Quel avenir pour le monde agricole? À peu près 20 minutes de parole environ chacun, avant d'entamer, comme nous en avons l'habitude, le débat. Et je suis heureux de vous laisser la parole, Patrice Moyon, pour écouter votre analyse de la situation.
Bonsoir, merci de participer à cette soirée sur le thème de l'agriculture et quel avenir pour l'agriculture française. On est effectivement ce soir au cœur de l'actualité, 500 tracteurs qui ont assiégé la ville de Boulogne aujourd'hui, des affrontements à Saint-Lô. Xavier Belin, le président de la FNSEA, et Thomas Diner, le président des JA, qui était à l'Élysée pour essayer de trouver une issue à la crise. Une crise, je devrais dire, ou plutôt on devrait dire des crises qui touchent aujourd'hui plus particulièrement les filières d'élevage. Mais si vous le voulez bien, je vais peut-être faire une petite rapide digression. Moi, je suis journaliste à Ouest-France, donc le premier quotidien français. Depuis une dizaine d'années, je couvre l'agriculture. J'y suis arrivé un peu par hasard, j'avais pas de compétences particulières et je me suis pris de passion pour ce milieu dans une rédaction où on doutait de la place de l'agriculture, malgré la place de l'agriculture dans l'Ouest. Et Aujourd'hui, je voudrais vous faire partager deux ou trois choses avant de rentrer dans la crise directement. La première, c'est que je pense que l'avenir de l'humanité repose aujourd'hui sur une tête d'épingle. De moins en moins d'agriculteurs, des pays du Sud où les paysans quittent la terre pour gagner des villes, et des paysans, ceux qui restent en France, de l'autre côté de la rive de la Méditerranée, en Afrique, en Amérique du Sud, des paysans qui portent l'avenir de l'humanité. Ils portent l'avenir de l'humanité parce qu'ils doivent nourrir une humanité plus nombreuse, 7 milliards d'habitants aujourd'hui, presque 10 milliards en 2050. Ils portent l'avenir de l'humanité parce que c'est sur les territoires qu'occupent les agriculteurs aujourd'hui qu'il va falloir demain trouver des réponses au changement climatique. C'est parce que les agriculteurs seront eux aussi les premiers exposés aux conséquences du réchauffement climatique. Donc l'agriculture aujourd'hui, pour moi, est une question essentielle, et la France, vieux pays agricole, aurait tout intérêt à s'y intéresser un peu plus qu'elle ne le fait aujourd'hui. Des crises, alors on est en crise, de quelle crise parle-t-on aujourd'hui quand on regarde les manifestations des éleveurs en France? Pas seulement en France d'ailleurs, parce qu'il y a eu aussi d'autres manifestations, en Allemagne notamment. Tout l'élevage aujourd'hui est en crise en Europe. Simplement, la crise est peut-être plus violente en France. Quand je dis tout l'élevage est en crise en Europe, ce qu'il faut voir, c'est que il y a d'abord les conséquences de l'embargo russe. L'embargo russe, donc dans l'affrontement entre l'Union européenne et la Russie, l'embargo a bloqué les exportations européennes agroalimentaires. 30% des exportations de fromage européen allaient en Russie. Le marché russe représentait 5 milliards d'euros d'exportation pour l'Europe. Donc ça c'est la première crise. Deuxième crise, c'est celle des marchés. Marchés de matières premières qui sont aujourd'hui en forte baisse, donc volatilité sur les cours mondiaux. Après une envolée en 2012, 2013, 2014, on assiste à une chute très brutale comme celle du pétrole. Deuxième choc. Troisième choc, c'est celui lié au ralentissement économique dans les pays émergents qui tirait la croissance ces dernières années. C'est aussi la demande chinoise qui ralentit. Et l'interrogation des marchés asiatiques, elle est aujourd'hui essentielle aujourd'hui quand on regarde l'agriculture. Je dis l'Asie parce que vous connaissez peut-être cette phrase de Kessel, « La grande poussière de l'Asie recouvre le passé et voile l'avenir ». Et on est face aujourd'hui à cette interrogation avec la Chine. Il y a 4 ou 5 ans, il y a eu l'envolée de la demande chinoise de lait, lié à la crise de la mélamine, du lait empoisonné, qui fait que les Chinois se sont tournés vers les importations de lait, et notamment de lait européen, pour assurer l'approvisionnement de leur marché. Aujourd'hui, la demande chinoise ralentit, et donc tout ça pèse sur les cours mondiaux. Donc, triple crise. Dans cet environnement, pourquoi est-ce que la France vit peut-être plus durement cette crise? Je pense que l'analyse qu'il faut faire, c'est que la France était plus mal préparée, elle avait moins anticipé ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Moins anticipé pourquoi? Il y a une analyse qui a été remise au Premier ministre au mois de décembre, réalisé par un groupe d'experts, et que disent-ils? En gros, la France aujourd'hui n'a plus de cap agricole, elle n'a plus de véritable orientation stratégique comme elle avait su le faire peut-être dans les années 60, je pense aux lois Pisani. Aujourd'hui, pas de cap, comment voulez-vous avoir des vents favorables si vous n'avez pas de cap? La France ne sait pas ce qu'elle attend aujourd'hui de son agriculture. Et pourtant, elle a un formidable potentiel quand on regarde le lait, Lactalis, numéro un mondial du lait, Danone, des produits de qualité, 40% du lait français qui est exporté. Donc pourquoi est-ce que la France ne sait plus ou ne sait pas regarder son agriculture? Je pense que le fossé s'est creusé d'un point de vue sociologique, le fossé s'est creusé entre le monde agricole et le reste de la société. Je disais tout à l'heure une tête d'épingle, aujourd'hui la population active agricole c'est 2%. 2% qui sont les premiers maillons d'une chaîne agroalimentaire et au final le consommateur. On s'est éloigné de l'agriculture et en même temps, on en attend beaucoup. On en attend beaucoup avec des chocs de modèles, alors que je pense qu'on devrait plutôt s'interroger sur, avec un territoire comme celui de la France, la capacité à offrir des diversités de réponses. Il n'y a pas une réponse aujourd'hui sur les marchés, mais des réponses. Retour un peu à l'actualité. Donc vous avez vu ces manifestations. Je pense qu'elles en disent long aussi sur la difficulté de ce pays à nouer des relations sociales constructives. Pourquoi est-ce que c'est plus difficile, effectivement, en France? Quand on regarde la chaîne alimentaire, les agriculteurs, les industriels, la grande distribution, on voit la difficulté à construire dans la durée des relations pérennes. On est dans un pays où le toujours moins cher a fini par s'imposer dans l'alimentation. Aujourd'hui, l'alimentation, dans le budget des ménages, c'est entre 12 et 13%, c'était 25% il y a 30 ans. On a assisté ces dernières années à la création d'un véritable oligopole avec quelques centrales d'achat sur la scène européenne qui mettent la pression sur les industriels, qui à leur tour mettent la pression sur les agriculteurs. Comment dans ces conditions-là construire un avenir pour l'agriculture ? Alors, je pense qu'on est au bout d'un modèle. On est au bout d'un modèle sur la guerre des prix. On est au bout d'un modèle sur la diminution du nombre d'agriculteurs. On est au bout d'un modèle sur les relations sur la chaîne alimentaire. Est-ce que on peut réinventer quelque chose ? Alors moi, j'aurais tendance à dire oui. Alors je vais essayer de vous donner quelques exemples. Premier exemple, je pense que le monde agricole, ces dernières années, a su se remettre en question profondément. Et l'Ouest incarne bien cette remise en question. C'est le retour de l'agronomie. Qu'est-ce que ça veut dire, l'agronomie ? Ça veut dire qu'on est en train d'inventer, par exemple dans l'Ouest de la France, avec l'agriculture écologiquement intensive, une agriculture plus efficace, qui pollue moins et qui dégage ou qui peut dégager à terme de meilleurs revenus pour les agriculteurs. Parce que l'une des leçons aussi de cette crise de l'élevage, c'est qu'on voit des modèles qui étaient considérés comme incarnant la modernité chuter. Ces 30 dernières années, le développement de l'agriculture s'est fait par élimination successive. On pensait que ceux qui partaient permettraient à ceux qui restaient de mieux vivre. On pensait que agrandir l'exploitation, la mécaniser, jouer la fiscalité plutôt que le développement à long terme étaient des atouts. Quand vous regardez les manifestations actuelles, vous voyez que ceux qui sont en première ligne, ce sont des jeunes qui ont parfois trop investi, des jeunes qui ont peut-être mal pensé leur modèle de développement. Et ça, c'est une des leçons de cette crise qui commence à être tirée, parce qu'on entend, des chercheurs, à l'INRA, je pense à Jean-Louis Perrault, par exemple, qui dit « mais on est dans des systèmes où les coûts de production sont élevés. Si vous prenez le grand bassin de l'élevage dans l'Ouest, vous avez des atouts pédoclimatiques absolument exceptionnels, on peut produire du lait à pas cher, avec des systèmes fourragers, en important moins de soja du Brésil. Donc cette crise, elle interroge aussi notre regard sur la modernité. Alors que je pense que l'agriculture pourrait cesser de détruire des emplois, qu'elle pourrait commencer peut-être à en recréer un peu. Alors, sur quoi on peut s'appuyer demain, à la fois pour trouver des leçons à la crise, pour recommencer à faire du développement territorial? Faire du développement territorial, c'est bien sûr essentiel. Quand vous regardez la place qu'occupe l'élevage en France, c'est en gros un peu plus de 800 000 emplois générés par l'élevage. C'est aussi des activités économiques sur des territoires qui ne peuvent pas accueillir d'autres activités que l'élevage. Quand vous regardez la fameuse écharpe aride dont parlent les sociologues, qui va des plaines de la Meuse jusqu'aux Pyrénées, en passant par le Massif central, ce sont les grandes régions d'élevage. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre demain? Rien. Comment est-ce qu'on peut maintenir de l'élevage en s'appuyant sans doute sur des projets territoriaux et en reconstruisant à partir des régions? C'est l'une des possibilités qui est offerte par la PAC aujourd'hui, et je pense que c'est une des grandes chances. Le piège pour l'agriculture française et le piège pour les régions, ce serait d'utiliser les fonds de développement rural qui sont donc gérés par les régions aujourd'hui, ce serait de les utiliser en saupoudrant avec des subventions. L'avenir, demain, pour les régions françaises et pour l'élevage, c'est de construire un projet régional ou des projets interrégionaux. Quand on voit la région des Pays de la Loire, quand on voit la Normandie ou quand on voit la Bretagne, il y a des alliances à trouver. On voit aussi que le piège qui menace les éleveurs, c'est la solitude. Les agriculteurs sont aujourd'hui la profession qui est le plus touchée par le suicide, et dans cette profession, ce sont les éleveurs. L'une des réponses pour l'élevage, c'est de reconstituer des réseaux, de développer des projets collectifs. Un exemple tout récent, j'avais au téléphone un petit groupe d'agriculteurs, d'éleveurs bio. Ils sont partis de Bretagne. Ils ont créé un réseau qui s'appelle Invitation à la ferme, production bio, fromage, yaourt. Il y a dans ce petit groupe un ingénieur, donc ils ont déposé une marque, ils ont développé un savoir-faire et ils ont créé ce réseau qui compte aujourd'hui une quinzaine d'éleveurs, principalement en France, mais le réseau est en train de s'étendre dans d'autres régions françaises, notamment dans l'Aveyron. Et dans 2 ans, ils pensent atteindre 50 agriculteurs, 50 éleveurs bio. Ils ont joué le collectif. Ils ont joué le collectif en déposant une marque, en travaillant sur du savoir-faire, en gagnant du temps, en partageant leur expérience et en sortant de leur isolement. Deuxième réponse. Troisième réponse, à mon avis, elle se joue sur la scène européenne. L'agriculture française et les hommes politiques français ne peuvent plus continuer à raisonner comme ils l'ont fait par le passé avec Bruxelles. Vous vous souvenez sans doute des marathons pour obtenir, pour arracher devant la Commission européenne plus de subventions ou moins de contraintes. La France est aujourd'hui la première puissance agricole européenne. Elle a une chance à saisir, mais elle ne peut pas la saisir seule. Elle doit construire aujourd'hui, convaincre ses autres partenaires que l'Europe a intérêt à maintenir une politique agricole forte. Mais cette politique agricole, qui vient tout juste d'être réaménagée, qui court jusqu'en 2020, elle ne pourra pas être celle qu'on a connue dans le passé. La politique agricole commune actuelle, qui a fait l'objet de multiples refontes, n'est sans doute plus adapté aux grands enjeux, même s'il faut reconnaître à l'ancien commissaire à l'agriculture, Dacian Solos, d'avoir porté quand même une vision pour l'agriculture européenne autour du développement rural et autour du verdissement. Persuadé que les agriculteurs devaient s'emparer des questions écologiques, à cause du climat bien sûr, mais aussi parce que ces questions écologiques pouvaient être un levier de compétitivité demain. Mais la politique agricole commune, l'Union européenne, a aussi fait le choix de l'ouverture des marchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on assiste sur des marchés de plus en plus volatiles à des crises à répétition. Et c'est donc bien à ces crises à répétition qu'il faut se préparer. Aujourd'hui, l'Europe n'a pratiquement plus d'instruments pour intervenir sur les marchés, sauf à inventer demain de nouveaux dispositifs pour pouvoir réguler la production, pour pouvoir permettre aux agriculteurs de disposer d'assurances. Parce que regardons ce qui se passe quand même de l'autre côté de l'Atlantique. Les États-Unis n'ont pas renoncé à avoir une politique agricole forte. Ils sont même plus ambitieux que jamais. Ils souhaiteraient signer avec l'Union européenne un traité de partenariat commercial, le TTIP. Ils sont ambitieux pour leur agriculture. La Commission européenne a dit aux Européens, aux agriculteurs européens, ne vous inquiétez pas. Ce sera un accord équilibré. Un rapport a été fait, malheureusement contredit par un rapport récent de l'USDA, l'administration de l'agriculture américaine, qui estime que dans tous les scénarios, l'agriculture américaine serait gagnante. Donc, la France doit se préparer à cette nouvelle politique agricole commune qui entrera en vigueur en 2021. Dès 2016, la France va devoir déposer ses premières conclusions. On est en pleine crise de l'élevage, on va avoir un calendrier électoral défavorable, avec une année présidentielle, et pourtant, c'est bien à cette nouvelle politique agricole commune qu'il faudrait se préparer. La France a intérêt à le faire, parce que l'élevage serait le premier menacé par cet accord s'il est signé. Comment est-ce que l'agriculture française est capable de conduire ce débat? C'est l'une des questions. Je pense que la priorité aujourd'hui pour la France, ce serait bien de redéfinir une ambition, un cap, savoir ce qu'elle attend, d'abord pour les agriculteurs, pour l'occupation des territoires. Elle a tout intérêt à le faire parce que l'agriculture est quand même le premier maillon de l'industrie agroalimentaire. 9 milliards d'excédents dans la balance commerciale. 9 milliards d'excédents, ce n'est tout de même pas rien dans un pays où les déficits sont constants depuis une trentaine d'années. 9 milliards d'excédents, ça vaut le coup, ça vaudrait même le coup de l'étoffer, parce que si le résultat est satisfaisant, la France est aujourd'hui à la 5e place des exportateurs agroalimentaires. Elle était à la 2e place en 2000. En clair, la France ne cesse de perdre des parts de marché sur la scène internationale. Elle fait moins bien que ses concurrents européens. Même dans le cadre de l'embargo russe, nos concurrents allemands, nos concurrents danois ont été plus rapides à développer de nouveaux marchés à l'export. La France, non. Je pense donc que plus que jamais, si on regarde l'agriculture française, elle est une belle endormie, pour reprendre le titre du livre consacré à l'agriculture française par Jean-Marie Séroni, mais elle a une carte à jouer, une belle carte à jouer, à condition de s'en donner les moyens.
Merci beaucoup, Patrice Moyon, de nous avoir aidé à entrer dans la compréhension d'un dossier qui est difficile, en nous expliquant qu'il n'y a pas une, mais des crises, avec des éléments extérieurs, des éléments qui sont propres aussi à notre pays, un pays qui n'a plus de cap agricole. Je retiens ça, c'est assez frappant d'avoir entendu cela. Et nous avions entendu aussi que nous étions au bout d'un modèle. Pour autant, vous avez indiqué un certain nombre de pistes sur lesquelles il y avait sûrement des avancées possibles et sur lesquelles il était peut-être envisageable d'espérer. Continuer, construire des projets régionaux ou intra-régionaux, reconstituer des réseaux et puis redéfinir une nouvelle politique agricole commune. Nous avons bien compris que la France avait des atouts, mais qu'il y avait urgence et que l'avenir n'était pas particulièrement simple. Alors, merci de ces éléments. Nous aurons l'occasion de revenir dans le débat tout à l'heure sur ce que vous venez de nous dire, et puis peut-être déjà que Monsieur Jolivel entrera peut-être en débat avec vous sur telle ou telle perspective d'avenir que vous venez de nous donner. Je vous laisse la parole.
Donc, merci de m'avoir invité. Alors, ce soir, je dois apporter mon témoignage d'éleveur. Alors, pour apporter mon témoignage, je vais faire un petit historique de la ferme. Alors, j'ai essayé d'être le plus précis et le plus rapide possible. Donc, je me suis installé en 1981. Alors, je suis donc dans une zone d'élevage. Et à cette époque-là, on avait choisi d'élever des génisses en contrat avec des producteurs de lait. Parce qu'on ne voulait pas traire les vaches, c'est une contrainte qui était énorme, la traite matin et soir. Et on pensait que, comme on est dans une région productrice de lait, on pouvait avoir, sans être associé, on va dire, des conditions de travail ou de travail plus intéressantes, quoi, au niveau organisation. Les quotas laitiers sont arrivés en 84, puisqu'on vient de les supprimer, ça fait un an. Donc, nous, on a passé notre carrière de non-producteur de lait en voisin des producteurs de lait qui avaient des quotas, eux, quoi. Donc, les quotas laitiers sont arrivés en 84, et nous, on nous a dit assez gentiment que la production de génisses était finie pour nous, quoi. Donc, la surprise n'a pas été agréable à l'époque, puisque c'était quasiment une situation de faillite. Et pour nous rattraper, on s'est tourné vers la viande bovine, quoi. Et de par nos capacités financières de l'époque, on ne pouvait acheter que des veaux mâles issus du troupeau laitier pour faire de la viande bovine. Ce qu'on appelle, dans le langage agricole, du torillon, quoi. Alors, on a produit du torillon à l'herbe, c'était un petit peu contre-intuitif à l'époque, parce que on est en région de pas très bonnes terres à maïs, parce que pour avoir des bonnes terres à maïs, ou pour avoir des bons résultats en maïs, soit qu'il faut avoir des bonnes terres à maïs, ou alors soit qu'il faut arroser l'été, quoi. Alors, on pourrait peut-être en parler tout à l'heure, mais ça pose des problèmes aussi de ressources en eau. Enfin, nous, on n'avait ni la possibilité, ni financière, ni géographique de faire de l'arrosage, quoi. Donc, on a fait du torillon à l'herbe, ça marchait bien. Et puis, on s'est laissé convaincre, puisque on était dans un groupement de producteurs, parce que sans doute qu'on n'était pas capable de faire face financièrement tout seul à nos achats, quoi. Et on s'est laissé convaincre d'augmenter notre production. Et donc, on a commencé à faire du torillon en 85. Et on a eu une première chute de la viande bovine en 87 ou 88. Donc, en une semaine, le prix de la viande a perdu 10 à 15%. Donc, on commençait à s'en relever, 10 à 15% sur tout le cheptel. Bon, c'était pas bien. Et puis, on a continué, quoi. Alors, à cette époque-là, le groupement de producteurs avait dû nous convaincre d'augmenter notre production et de passer en maïs soja, quoi. Alors, je ne vous cache pas qu'à l'époque, les effets collatéraux du soja en Amérique du Sud, on savait pas trop, quoi. Enfin, on s'y intéressait pas trop, quoi. Bon. Et en 88, 89, 90, on a eu trois sécheresses, je pense à répétition, qui nous ont mis dans une situation financière très tendue. Enfin, on est tombé à nouveau dans une situation financière très tendue. Et à ce moment-là, on a bien vu qu'on n'avait pas d'avenir sur une agriculture qu'on appellerait de type industriel, quoi, très consommatrice d'intrants. Alors, de notre part, c'était pas forcément un choix idéologique, mais c'était sans doute un choix plus obligé, quoi. Et on a commencé à acheter des femelles de race à viande pour faire ce qu'on appelle de la vache allaitante. Alors, la vache allaitante, c'est les vaches qui élèvent leur veau au pré, quoi. Donc, la situation financière combinée à une situation familiale qui était demandeuse de beaucoup d'argent m'a obligé à cette époque-là de trouver une petite activité complémentaire. Bon, ben, on a démarré notre troupeau de vaches, on a arrêté d'acheter des mâles à l'extérieur. Et puis en 95, on s'est trouvé un petit peu, je sais pas comment on appelle ça, pas à l'aise, mais enfin, en tout cas, on avait plus de pression financière. Alors, nous, on a tiré la leçon de l'endettement et de la précarité financière. Donc, on est resté très, très prudent. 96-97, je crois, il y a eu une première crise de la vache folle. Donc, n'ayant pas trop d'investissements ou des investissements modestes, ça s'est passé, quoi. 2000, ça allait. 2001, il y a eu une crise de la vache folle. Alors, peut-être vous, quand vous n'êtes pas dans le métier, on a moins les dates en tête. 2001, crise de la vache folle. Bon, c'était pas confortable, mais c'est passé aussi, quoi. Et, on a continué. On a, continué à développer notre troupeau, à faire notre métier d'éleveur, quoi. Et en 2006, pour nous, ça a été notre dernière bonne année pour des producteurs spécialisés en vache à viande, quoi. Alors 2007, la mécanique a commencé à se dérégler, quoi. Alors on continuait toujours à produire parce qu'il y a toujours une idée dans... Je pense que les éleveurs, on n'aime pas se séparer de ses bêtes. Je pense que culturellement, on n'aime pas baisser en volume. Et puis on dit toujours, faut pas changer de cap, quoi. Faut pas changer d'activité parce que ça va revenir. Donc 2007, ça a été notre première année, on va dire plus moyenne, avec une très très forte augmentation du prix des céréales. Voilà, donc 2008, pareil, couplé à une sécheresse avec les gens qui spéculaient sur les céréales et qui spéculaient sur les fourrages, puisque la rareté fait la cherté. Alors, 2007, 2008, 2009, le prix de la viande chutait. Je pense qu'on était sur des revenus très, très faibles, voire à peine à l'équilibre, quoi. En 2009, on avait des vaches à vendre, c'était des mâles à vendre, et puis personne n'en voulait, on est en situation d'infériorité. On a un langage commercial un petit peu soumis, un peu courtois, quoi. Et puis, il faut savoir qu'en France, je crois qu'il y a un industriel qui doit acheter 6 vaches sur 10, quoi, ou qui fait 60% de la viande. Et puis, même pas cher, il n'était pas content. Et puis, sur un marché, cette industrie-là ne respecte pas son engagement, quoi. On avait 9 taureaux à partir. Il dit, j'en prends 8. Enfin, j'ai dit, non, t'en prends 9. Enfin, voilà, bon. Cote mal taillée pour tout le monde. Et puis, faut jamais se fâcher. Puis, j'ai dit, c'est fini, quoi. Parce que, si vous voulez, les groupes industriels, les groupes de l'agroalimentaire ont toujours la même stratégie. Même pas cher, c'est encore trop cher. Et encore pas cher, c'est encore trop cher. Et encore pas cher. Enfin, ça n'arrête jamais, d'accord? Et puis, le principe de base, je ne sais pas si c'est différent dans les autres mondes que dans le monde agricole, mais c'est de ne pas respecter ses engagements et de ne pas respecter les contrats. Donc c'est pour ça que, ça c'est le principe de base des affaires. Et puis, on a décidé de réduire le nombre de vaches, et puis ça correspond avec l'arrivée de mes enfants sur l'exploitation et de mes gendres qui s'intéressaient à l'agriculture. Et donc on a essayé de réfléchir un petit peu au système qu'on voulait mettre en place. Alors, dans un premier temps, j'ai une de mes filles qui a dit, je m'intéresse, mais il faut pas qu'on se fasse concurrence ou qu'on se marche sur les plates-bandes dans l'organisation de notre exploitation. Donc, je vais faire de la poule pondeuse en bio, en vente directe. D'accord. Elle était salariée sur l'exploitation. On s'est rapidement rendu compte que ça fonctionnait très bien. On a passé la ferme en agriculture biologique. On a vendu, je pense, quand même beaucoup de vaches. C'est peut-être ce qui a été le plus difficile pour moi. Ils ont monté son compagnon, un de mes gendres, a dit, on va monter 2 autres poulaillers. En fait, on a 3 poulaillers de 250 ou 300 poules, je ne sais pas exactement. Et puis, on va développer la vente directe des œufs en bio et on va développer la vente directe de viande bovine, quoi. Voilà, ça se passe pas trop mal. Et avant de vraiment s'engager davantage dans l'agriculture, ils ont été, je crois, 3 ou 4 ans salariés. Et puis, à un moment donné, je pense qu'ils ont vu que ça les intéressait, ils se sont associés. En parallèle, un autre de mes gendres s'intéressait aussi à l'agriculture, à l'époque. On n'a pas souhaité s'associer, et puis il s'est associé en brebis laitière, en bio, avec transformation, je crois que c'est en 2013. Et je me suis associé avec Marie et Timothée en janvier 2014. Voilà, notre histoire un petit peu agricole. Alors, en 2008-2009, pour diversifier nos productions, on va dire, enfin, mes enfants, enfin, les futurs agriculteurs ont planté 1 hectare de vergers, en essayant d'être le plus près possible de variétés rustiques pour avoir un verger qui n'a pas besoin de traitement, quoi, enfin, en agriculture biologique. Voilà. Et puis, bon, ça a été beaucoup de travail. Ce verger-là a été entretenu, puis il se trouve à rentrer en production à peu près maintenant, quoi. Et entre-temps, ils en ont planté 1 autre hectare en 2013 ou 2014, qui rentrera en production dans les années à venir. Donc voilà un petit peu notre parcours agricole. Voilà un petit peu notre parcours agricole. Et en fait, on a essayé de tirer les leçons de... On a essayé de tirer les leçons de la monoproduction, de la dépendance des marchés, et puis de l'acheteur unique, quoi. Parce que pour moi, un des gros soucis de l'agriculture, c'est que les éleveurs, en fait, en tout cas, je ne sais pas pour les productions céréalières, mais que les éleveurs n'ont qu'un seul acheteur, quoi. D'ailleurs, dans la crise laitière, je connais pas forcément bien la production laitière, je crois qu'il y a 6 acheteurs qui font 90% des volumes. Et je crois qu'il y a un journaliste de Mediapart qui a fait de l'investigation. Ils se sont rendus compte que ces 6 acheteurs-là se réunissaient régulièrement pour faire de l'entente sur les prix, quoi. Donc, vous imaginez que les éleveurs là-dedans, ils comptent pas grand-chose, quoi. Sans doute les prix à l'achat et les prix à la revente, parce que eux, en face, ils n'ont, je crois savoir qu'ils n'ont que 4 centrales d'achat, quoi. Donc voilà. Et puis, j'imagine que vous savez facilement que la seule variable d'ajustement, c'est l'éleveur, quoi. Bon, quand ça ne gagne pas assez, puisque c'est des gens qui ont des charges de structure, on baisse un petit peu les prix, quoi. Voilà. Alors, dans l'orientation qu'on a faite de notre ferme, quoi, ça n'a pas forcément été simple, c'est aussi culturel. Alors, je crois qu'il y a plein de choses qui se passent dans la tête, quoi. C'est de faire un petit peu déjà le contraire de ce qu'on nous dit de faire, quoi. Pas de filière. Pas d'acheteur unique, multiplier les productions et multiplier les acheteurs, quoi. Donc aujourd'hui, on a à peu près, je crois 600 à 800 clients. Alors on ne fait pas que de la vente directe, hein. On travaille aussi avec un petit groupement de producteurs de viande bovine bio qui s'appelle Bretagne Viande Bio. On a l'impression qu'ils jouent la carte, qu'ils respectent les producteurs. Enfin, on en est quasiment sûr. Ces gens-là essayent de travailler avec des bouchers. Et puis, voilà au niveau agricole à peu près où on en est rendu aujourd'hui, quoi. Alors, dans les choix qu'on a fait pour notre agriculture, quoi. On a essayé de comprendre ce qui amène la crise aujourd'hui, industrialisation, augmentation effrénée, investissement inconsidéré, parce que les gens croient ce qu'on leur dit, quoi. Et puis, dans les autres choses qui ne sont pas des causes, on fait de l'élevage, je pense que dans les médias, la viande bovine, c'est pas forcément bien... C'est pas porteur aujourd'hui. Donc, on essaie d'être capable d'expliquer aux gens comment on élève nos bêtes, dans quelles conditions elles sont abattues, et pourquoi on fait de l'élevage. Et, enfin, en tout cas, moi, je fais partie, fait chez nous, en tout cas aussi, on pense que l'élevage, alors, la formule n'est pas de moi, il y a une fille de l'INRA qui a travaillé là-dessus, enfin, une dame de l'INRA qui s'appelle Justine Porcher, qui a travaillé là-dessus, qui dit que l'élevage, c'est la matrice de notre société. Donc, il faut maintenir absolument l'élevage en France. Cette personne-là, Jocelyne Porcher, dit qu'il n'y a pas d'élevage industriel. Il y a des productions animales industrielles et il y a l'élevage qui sont concurrentes. Alors, là où on est inquiet et on partage aussi un petit peu ce point de vue-là, c'est cette personne-là pense que la mauvaise image de marque de l'élevage industriel peut dans sa chute ou dans sa baisse de commerciale, entraîner l'élevage. Donc on essaye de se différencier, de faire attention à ça. On a fait le choix de l'agriculture biologique parce que c'est un label pour nous. Ça, on n'a pas besoin d'expliquer à nos clients que nous, on est gentils, qu'on travaille bien, etc. Et aussi, j'en profite pour vous dire que, en tout cas à ma connaissance, et j'ai essayé de me renseigner avant de venir ce soir, c'est le seul label qui soit contrôlé sur la comptabilité. C'est-à-dire que les autres, les gens écrivent, mais il n'y a pas de contrôle, quoi. Ou alors, à côté, il y a des gens qui sont assez puissants pour empêcher les contrôles. Voilà. Et puis, dans nos choix aussi, alors on a arrêté la culture de maïs parce que maintenant ce serait aussi pour des raisons, je sais pas, enfin morales ou intellectuelles ou philosophiques, on ne peut pas ne pas penser à ce qui se passe en Amérique du Sud. Alors donner des vaches, donner du soja à manger à des vaches, à des cochons pour faire de la viande bourrée d'OGM, bon, ça nous parle pas trop, quoi. Et puis dans nos choix, on essaye de valoriser le pâturage, quoi. Et puis il y a aussi des choses qui se passent. Ben, le monde évolue, le climat évolue, la société évolue, et on essaye de mettre en place des techniques pour être là demain, pour tenir compte du réchauffement climatique, quoi. Et tout à fait dernièrement, à propos du réchauffement climatique, j'ai lu que l'organisme ou l'Organisation météorologique mondiale disait que les 14 premières années du 21e siècle, sur les 15 premières années du 21e siècle, sont les plus chaudes qui n'aient jamais été enregistrées, quoi. Donc, peut-être que ça se réchauffe quand même, quoi. Donc, nous, on prend tout ça un petit peu au sérieux pour essayer de savoir comment on peut s'organiser, quoi. Voilà, enfin, disons, voilà de façon assez rapide notre parcours agricole et pourquoi on est arrivé là, enfin, un petit peu de fil en aiguille, quoi. Voilà.
Merci beaucoup, Marcel Jolivel, de ce que vous nous avez partagé de votre itinéraire d'agriculteur. Je crois que cela incarne vraiment notre réflexion ce soir, et à travers ce que vous nous avez dit, on peut deviner aussi par quel moment délicat vous avez dû passer cet itinéraire dans lequel il y a eu peu à peu la prise de conscience que, selon vous, il n'y avait pas d'avenir du côté d'une agriculture industrielle, avec cette dépendance des marchés et cette contrainte de l'acheteur unique sur lequel vous avez insisté. Voilà, et qu'il y avait peut-être à imaginer, à trouver d'autres manières d'envisager l'agriculture. C'est ce dans lequel vous vous êtes engagé avec vos enfants, cette agriculture biologique. Je crois qu'on a, à travers votre témoignage, à travers de ce que Patrice Moyon nous a indiqué tout à l'heure, un certain nombre d'éléments sur lesquels nous avons peut-être envie de réagir, de demander des précisions, peut-être de dire, ben oui, mais vous dites ça, mais enfin quand même, il y a tout ce pan-là que vous oubliez. On a largement le temps ce soir pour le débat. Je vais l'ouvrir en posant une première question à Marcel Jolivel. L'itinéraire que vous avez fait, cette prise de conscience peu à peu, j'imagine que vous en avez parlé avec un certain nombre d'autres agriculteurs près de chez vous, dans votre région, qui étaient confrontés au même problème. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que certains suivent votre démarche, la plupart ne le font peut-être pas. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne le font pas? Ils sont tellement dans une contrainte telle qu'ils ne peuvent pas s'en sortir de ce cadre-là. Voilà, comment vous avez vécu un peu cette relation avec vos autres voisins et collègues agriculteurs par rapport à cette question-là?
Alors, une précision que je n'ai pas donnée, qui est fondamentale sur l'évolution, qui est incontournable sur notre ferme, c'est que ma femme, j'ai une vie de famille, et ma femme a toujours travaillé à l'extérieur. Donc, ça a beaucoup aidé pour atténuer les crises et à prendre de l'autonomie par rapport à nos fournisseurs et à nos clients. Enfin, j'ai oublié de le préciser, je crois. Alors, comment on vit comment on arrive là, quoi? Alors, moi, je pense que les choses se passent dans la tête, et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, par exemple, dans le monde agricole, enfin, c'est ce que je crois penser, c'est qu'ils ne veulent pas passer à l'agriculture biologique parce que ça a une image d'écolo, de gens qui vont chauffer à la bougie ou je sais pas quoi. Bon, et non mais c'est à ce point-là. Et aussi, il y a une autre chose qui est très importante, c'est que il y a une pression commerciale qui est très très importante dans les campagnes. Et moi, alors on va dire c'est la théorie du complot. Je pense que les industriels ont intérêt à travailler avec des gens, alors je ne vais pas dire qu'ils sont ruinés, mais qui financièrement sont juste au niveau parce que ce sont des gens dociles. Et en fait, forcément, il y a tous les commerciaux qui sont là pour vendre. Et parfois, je pense que certaines personnes font des investissements qu'ils n'auraient pas dû faire, quoi. Voilà, là, il y a la pression commerciale, et puis aussi, ben, il faut, je pense qu'on devrait, mais moi je n'ai pas les éléments pour faire ça, ou ce serait trop subjectif, il faut y regarder un côté social, quoi. Parce que les paysans, éleveurs, enfin moi c'est plus comme ça que je me définis, à un moment donné, socialement ont été mal considérés. Donc en ayant accès au statut d'entrepreneur, d'agro-manager, ils se fondaient dans une société industrielle moderne, c'est considéré comme une évolution. Et moi, je pense que, mais ça n'est pas qu'en agriculture, hein, ça peut être aussi pour le consommateur, je pense que, comment, dans la modernité, il y a des choses qui sont sources de progrès, mais la modernité n'est pas forcément source de progrès. Et les commerciaux ont la capacité de faire croire aux gens, quoi. Enfin, je pense que c'est pour ça que les gens ne passent pas le cap, quoi. Enfin, ça fait partie, sans doute, des raisons des gens pourquoi ils ne passent pas le cap, quoi. Alors, à propos de la conversion à l'agriculture biologique, alors je pense que Patrice Moignon le connaît ça mieux que moi, mais il y a beaucoup, beaucoup de producteurs de lait qui, aujourd'hui, s'intéressent à se convertir en lait bio, je crois. Hein. Il y a beaucoup de producteurs de lait qui s'intéressent à se convertir en lait bio. Et attention, je n'ai pas dit qu'il y avait des gens en bio qui étaient bien et des gens conventionnels en industriel qui n'étaient pas bien. Il y a des gens bien partout, mais je pense que ceux qui sont en crise aujourd'hui dans l'agriculture, on va dire conventionnelle, industrielle, sont plus victimes qu'acteurs, quoi. On leur dit « faut investir », ben ils y ont cru, quoi. Et on les a définis, alors, il ne faut pas que je monopolise la parole trop longtemps, on nous disait, par exemple, que nous, avec notre système d'agriculture, on est sur une niche. Bon, on est sur une niche, d'accord, moi je veux bien, d'accord. Et il y a quelqu'un, d'ailleurs, qui est enseignant dans un lycée agricole, mais je lui dis, parce que toi, les autres agriculteurs, tu les considères comme des chefs d'entreprise? Ah ben, il me dit, ouais. Alors, je lui dis, t'appelles ça comment, toi, un chef d'entreprise qui n'a qu'un seul acheteur? Non, mais les choses sont aussi simples que ça, hein. Non, mais les choses sont aussi simples que ça, quoi. Donc, et puis là, ben, les gens, ils n'ont qu'un seul acheteur, ils sont perdus. Et, bon, je vais redire une chose, là. Je savais que je venais là ce soir, et j'ai regardé une émission sur la crise à la télé, je crois que c'est lundi soir, et ils ont interviewé un éleveur de porc. En gros, il a dit, il faut qu'on nous achète nos cochons, mais il m'a dit, moi, je ne fais pas de politique, et puis dans l'agroalimentaire, ils font ce qu'ils veulent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est complètement terrorisé, parce que s'il dit un mot déplacé, et que, je sais pas quoi, que le directeur de son groupement de producteurs ou de son industriel voit ça, eh ben, il laisse les cochons une semaine de plus en bâtiment. Une semaine de plus en bâtiment, ils sont plus lourds, ils sont déclassés, et puis bon, ben, il a tout faux, quoi. Voilà un petit peu, à mon avis, comment on tient les éleveurs. Il n'y a pas de contre-pouvoir à l'acheteur unique, quoi, ou à la grande distribution.
Merci. Patrice Moyon,
oui, peut-être. Deux petites remarques. D'abord, les paradoxes français, c'est-à-dire que la France a cessé d'être une société agraire au moment où elle devenait une grande puissance agricole. Et effectivement, c'est notre rapport à la modernité, c'est le rapport à la modernité qui pose encore aujourd'hui un problème, je pense, aux agriculteurs. C'est-à-dire que toute une génération a eu le sentiment que la technique était la façon de se libérer des chaînes du passé. Une nature qui est aujourd'hui un peu mythifiée, mais la nature, c'était une nature oppressante, c'était une nature qui ne permettait pas de vivre dignement. Et avec l'arrivée du tracteur, mais aussi avec l'arrivée des produits phytosanitaires, c'était l'idée qu'on pouvait se libérer des contraintes du passé, pouvoir être considéré comme les autres. Et aujourd'hui, les urbains viennent voir les agriculteurs leur disant finalement la modernité dont vous êtes si fier, elle n'est pas si moderne que ça. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas bio? Et les agriculteurs sont confrontés à des demandes parfois contradictoires. Et donc on assiste à une remise en question profonde. Alors, remise en question profonde sur la consommation. On est éleveur, vous êtes éleveur, et puis on vient vous dire, mais vos animaux, vous les traitez comment ? Vous êtes éleveur et on vous dit, mais finalement, manger de la viande, c'est pas si bien que ça. Vous êtes éleveur, on vous dit, mais finalement, vous êtes aussi responsable du changement, du réchauffement de la planète, en oubliant parfois que les prairies stockent aussi du carbone. Vous voyez, donc, il y a toutes ces... Les agriculteurs aujourd'hui, ils sont à la fois dans un monde extrêmement difficile sur le plan économique, et en même temps, ils doivent répondre en permanence aux demandes des consommateurs et s'interroger sur ce qu'est... Et d'ailleurs, on est au cœur de la crise de l'élevage, parce que la crise de l'élevage, elle interroge effectivement sur les modèles. Vous voyez des jeunes qui sont aujourd'hui dans les manifestations. Ils se sont installés, on leur a dit la demande mondiale de lait est excellente. Et puis ils ont acheté des robots de traite, ils se sont agrandis et aujourd'hui ils n'arrivent plus à vivre de leur métier. Donc la question qui leur est posée, c'est quoi votre projet ? C'est quoi la performance ? La performance économique, bien sûr, parce que à quoi bon s'agrandir si on n'arrive pas à dégager un revenu ? Mais la performance aussi sociale, comment est-ce que je vis mon métier d'éleveur ? Et la performance environnementale.
Merci, merci beaucoup. Nous allons prendre quelques questions. Première question qui est au milieu. Voilà. Attendez, le micro va venir jusqu'à vous.
Oui, d'abord, je voudrais féliciter M. Jolivelle pour sa capacité d'adaptation. J'ai vécu en entreprise, on nous disait toujours qu'il fallait s'adapter, qu'on n'avait jamais un métier pour la vie. Ma félicitation, monsieur, pour cette grande capacité que vous avez eue. Ma question est, moi, je suis actuellement l'actualité parce que je suis bretonne et je suis très sensible à ce qui se passe effectivement dans ma région. Et un des critères qui est souvent invoqué, c'est la concurrence déloyale des produits qui viennent de l'Est. Vous ne l'avez pas mentionné. Est-ce que ça vous paraît un facteur important dans la chute des revenus des paysans bretons, notamment?
Très bien. On va pas répondre tout de suite. On va prendre deux ou trois questions et puis après, on vous redonnera la parole. Voilà, une autre question. Voilà, oui.
Merci. Ma question est assez simple. Vous n'avez parlé que de l'élevage. Or, il se trouve que la consommation de produits végétaux directs est fortement recommandée par la faculté, disons. Est-ce que, quand vous parlez de modèle, est-ce que le modèle est justement aller vers moins d'élevage et plus de produits végétaux, y compris des végétaux donnant des protéines, j'entends.
Merci. Merci beaucoup. Une troisième question. Oui, j'ai bien vu. On ne vous oubliera pas, au fond.
Oui, c'est un peu la suite de la question de ce monsieur. On a parlé d'élevage, on n'a pas parlé de céréales et on n'a pas parlé de culture maraîchère. Est-ce que les situations sont les mêmes dans ces autres secteurs ?
Bien, merci. On va s'arrêter là pour l'instant. Donc la concurrence peut-être des produits de l'Est, et puis voilà, on a parlé de l'élevage, qu'en est-il pour les produits végétaux, les cultures maraîchères, céréales, Patrice Moyon?
Oui, alors les concurrences déloyales des producteurs de l'Est, elle est effectivement au cœur des préoccupations des éleveurs de Bretons, notamment des éleveurs de porcs, qui viennent de déposer une plainte auprès de la Commission européenne contre l'Allemagne pour dumping fiscal. Ils accusent l'Allemagne d'avoir détourné l'usage de la directive sur la TVA au profit des éleveurs, des producteurs de porcs allemands, et donc renforçant encore l'écart de compétitivité entre l'Allemagne et la France. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que le reproche qui a été fait à l'Allemagne, qui n'est plus tout à fait juste aujourd'hui, ça a été de recourir aux travailleurs détachés. Avec une particularité en Allemagne, c'est qu'il n'y avait pas jusque récemment de SMIC, Donc les travailleurs détachés venaient donc notamment des pays d'Europe centrale, mais aussi plus largement d'Ukraine, et donc travaillaient dans les abattoirs allemands à des conditions défiant toute concurrence. Donc ça, c'était deux des aspects, mais qui soulignent à la fois la concurrence entre l'Allemagne et la France, mais qui soulignent aussi le défaut d'Europe, c'est-à-dire il n'y a pas assez d'Europe, c'est-à-dire pas assez d'harmonisation sociale et fiscale. C'est l'une. J'entendais les producteurs de porcs qui ont déposé plainte contre l'Allemagne, disant on ne sait pas contre l'Europe, on veut une Europe qui fonctionne mieux, tout simplement.
Bah, si vous voulez ajouter quelque chose sur...
Non, sur le truc de Patrice Moignon, c'est...
Très bien, c'est alors on va...
Monsieur, je suis d'accord. Ouais.
Voilà, sur la question de... on a parlé de l'élevage, mais on n'a pas parlé des autres secteurs.
Alors, l'élevage, effectivement, j'en ai beaucoup parlé parce qu'on était au cœur de l'actualité. Je crois que quand on parle de l'agriculture, on devrait parler des agricultures françaises, c'est-à-dire que l'agriculture française, c'est bien un archipel. Avec les éleveurs sont majoritaires. La France est aujourd'hui le premier producteur européen de céréales. Ça contribue très fortement aux exportations, dans la balance, dans les excédents de la balance commerciale française pour l'agroalimentaire. En gros, il y a trois grands secteurs. Il y a les vins et spiritueux qui pèsent très lourd, les céréales et les produits laitiers. Et c'est un secteur. Moi, ce que je trouve intéressant, alors le secteur des céréales, les céréaliers ont été les grands bénéficiaires de la PAC. Et ils ont été aussi, on pourrait le dire, les plus conservateurs. Je crois que c'est Michel Barnier qui avait eu le courage d'imposer une première redistribution des aides européennes. Mais il faut reconnaître aussi aux céréaliers, et ils jouent un rôle aujourd'hui, c'est qu'ils ont su investir avec les dividendes de la PAC et construire des fonds d'investissement, je pense notamment à Unigrain, et donc investir. Ce qui a manqué à investir dans des filières industrielles, ce qui a manqué aux éleveurs, c'est une organisation. Les producteurs d'oléagineux, quand ils ont été confrontés à la concurrence des Américains qui voulaient imposer le soja, donc ils étaient en position de faiblesse, la grande force des producteurs d'oléagineux à l'époque, ça a été d'imposer une cotisation volontaire obligatoire aux producteurs d'oléagineux pour organiser la filière. Et aujourd'hui, avec le groupe notamment Avril, ex-Sophie Protéol, les producteurs d'oléagineux disposent d'une filière industrielle qui est présente dans l'huile, je pense à Le Sieur, qui est présente aussi dans la chimie du végétal. Donc vous voyez, c'est deux mondes, alors que les éleveurs n'ont pas su s'organiser. Alors il y avait la consommation, c'est ça, la consommation de viande. On est aujourd'hui en Europe dans des sociétés où la consommation de viande a tendance à diminuer, alors que la demande de protéines animales augmente dans les pays émergents. Moi, je crois que le modèle d'élevage demain, ce ne sera pas forcément plus, ce sera peut-être mieux. Donc organiser des filières d'élevage capables non pas de tirer des volumes, mais d'être sur des produits de qualité qui permettent aux éleveurs de mieux vivre.
Merci. Rien à ajouter
alors,
ici
excusez. Alors c'est ce que dit Patrice Moignon sur l'Est, main d'œuvre à bon marché. Bon, je suis d'accord, je connais... pas très bien de sujet, mais c'est vrai qu'en Allemagne, il n'y a pas de SMIC, on fait venir beaucoup de gens des pays de l'Est. Une chose que je voulais dire, là, quand on parle des céréales, des éleveurs, etc., etc., il faut savoir que je crois qu'il y a 10 milliards d'aides européennes en France par an. Je crois savoir qu'il y a 80% de ces aides-là qui vont toujours à 20% des producteurs. D'accord. Je crois savoir qu'il y a 500 000 producteurs en France, enfin à quelque chose près, quoi. Donc vous faites le calcul. Donc s'il y a 20% de 100 000, de 500 000, ça fait 100 000 producteurs qui touchent 20% de, qui touchent 80% de 10 milliards, qui touchent 8 milliards. Bon, si on fait la division, j'espère que je me trompe pas d'un zéro, ça doit faire 80 000 euros de moyenne, quoi. Et le reste doit toucher, ben si on fait la division aussi, ça doit faire à peu près 5 000 euros de moyenne, quoi. Donc là-dessus, bon, il y a ce souci-là. Il semblerait aussi que dans la PAC, plus les gens ont grand, plus ils touchent de subventions. Alors attention, il y a des gens qui touchent beaucoup de subventions, mais qui créent aussi beaucoup d'emplois. Mais sans doute, hein, mais en tout cas à l'actif, plus les gens ont grand, plus ils touchent de subventions. Donc il y a une concurrence effrénée sur le foncier, et c'est des gens qui ont le plus de capacités financières, qui acquièrent le plus de foncier, et qui par ce biais-là, touche le plus de subventions. C'est à peu près proportionnel au nombre d'hectares. Je crois que c'est à peu près toujours vrai. Voilà. Et puis aussi, à propos du foncier et de l'espace, je vous dis ça parce que moi, c'est un chiffre, quand je l'ai entendu, qui m'a choqué. Il y a un département de terres agricoles en France qui disparaît tous les 7 ans. Donc c'est facile d'imaginer que les gens qui ont des sous, c'est quand même pas mal d'investir dans quelque chose qui va devenir rare. Apparemment, c'est la base de l'investissement, quoi. Bon, ça, c'est une chose. Après, pour les cultures maraîchères, il faut savoir que je crois savoir qu'en maraîchage, en agriculture biologique, il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Mais il faut savoir que ces gens-là travaillent sur des petites surfaces et ne touchent quasiment pas d'aide de l'Europe, quoi. Donc, il faut qu'ils se débrouillent. Eux, c'est du libéralisme. Il n'y a pas d'aide de l'Europe, quoi. Donc, c'est très difficile pour eux. Et puis, c'est toujours le déséquilibre des aides, quoi. Si, avec les aides, je pense qu'on peut orienter l'agriculture un petit peu quand on veut, quoi. Mais vous imaginez bien que pour l'orienter, il y a tout le problème. Les 20% qui touchent 80%, ils n'ont pas envie de lâcher ce qu'ils ont, quoi. Ce doit être humain, ça. Bon, et une autre chose aussi, vous avez parlé de l'élevage. Alors moi, je suis d'accord, il faudra qu'on mange moins de viande. La viande, ça doit avoir sans doute un impact sur l'environnement. Je peux facilement comprendre ça. Mais, donc, les choix agricoles qu'on a faits, on pense, nous, qu'on est sur une voie qu'on pourrait appeler médiane, qu'on a besoin de l'élevage pour entretenir les sols. On va, si vous voulez revenir là-dessus en 2 minutes, on a besoin de l'élevage pour entretenir les sols. Et si on a besoin de l'élevage, il faut absolument qu'on ait des gens qui achètent notre viande, parce qu'autrement, on ne peut pas avoir, on ne peut pas faire d'élevage. Et si je crois savoir, mais je ne suis pas non plus un spécialiste de ça, que si l'élevage est à sa place, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'élevage industriel, enfin, qu'on n'élève pas des ruminants avec des céréales et avec du soja, si l'élevage est à sa place, il y a un coût énergétique apparemment qui est très acceptable, quoi. C'est pas du tout déplacé. Ça, c'est en gros les grosses idées. Alors, il y a des gens qui prétendent qu'il ne faudrait manger que de la viande de bœuf qu'une fois par semaine. Alors, pour les éleveurs, c'est pas forcément bien, mais il faut qu'on tienne compte aussi de ces paramètres-là. Bon. Et puis après, pourquoi il faut maintenir l'élevage? Parce que il y a des recherches en France. Enfin, je crois qu'il y a un département à l'INRA, l'Institut National de Recherche Appliquée. Alors, dans la salle, il y a peut-être des gens qui sont plus au fait que moi là-dessus. Ils se rendent compte que dans les régions qui sont spécialisées en céréales, il y a un appauvrissement en matière organique des sols. Et en fait, pour limiter cet appauvrissement-là, il faudrait remettre de l'élevage en zone céréalière pour faire un assolement, quoi. Parce que l'agriculture spécialisée céréalière, en fait, consomme sans doute beaucoup d'énergie fossile aussi, et enfin les gens que j'ai entendus, enfin les agronomes en qui j'ai confiance, disent que elle est dépendante de l'acide phosphorique et de la potasse, et que très rapidement il risque d'y avoir une pénurie mondiale d'acide phosphorique et de potasse. Et en fait, alors qu'en associant la production de céréales avec de l'élevage, ce serait plus équilibré déjà au niveau de la taille des fermes et du paysage, et puis ça réglerait beaucoup de problèmes, quoi. Et puis d'un côté aussi, on a beaucoup d'élevage, beaucoup d'azote en Bretagne, et puis on a beaucoup de carbone avec les pailles dans le bassin parisien, enfin dans les régions céréalières. Donc si on régulait un petit peu tout ça, ce serait peut-être pas mal, quoi. Voilà un petit peu moi ce que je pense de l'élevage, quoi. Mais des animaux d'élevage et non pas des animaux issus de production animale industrielle, quoi. Voilà. Mais attention, hein, je ne condamne pas les gens. Enfin, il y a des gens qui ont fait de la production animale industrielle parce que de fil en aiguille, où ils se sont engagés dans des dettes, je les considère pas forcément comme responsables de la situation, quoi. Donc il faut essayer d'aider ces gens-là, et enfin par le biais des aides, et puis aussi des techniques pour aller vers un autre système agricole. Parce que beaucoup, beaucoup d'agronomes pensent que notre système ne fait que par la raréfaction des matières premières, enfin risque va au mur, quoi. Enfin voilà moi ce que je, enfin la tendance qui à laquelle j'appartiens, quoi.
Merci. On va reprendre une série de questions, si vous le voulez bien. Alors, on va aller tout au fond, là-haut. Il y a deux questions qui sont proches l'une de l'autre. D'abord, madame, puis après, monsieur. Oui, oui, mais... j'ai bien
vu. Je voudrais rebondir sur quelques petits points qui ont été dits. Alors, on a parlé du coût de production des fermes avec des investissements très élevés, etc. Effectivement, la disparition des terres agricoles, un département tous les 7 ans, enfin la surface d'un département tous les 7 ans, ça augmente, ça a tendance aussi à augmenter le coût pour les fermes, parce que si on perd des terres agricoles, on augmente le coût. Vous voyez, quand une vache peut avoir au moins 1 hectare d'herbe, ça coûte quand même moins cher que de la nourrir avec effectivement des tourteaux ou autres. Et en plus, ça donne de la meilleure viande et du meilleur lait. Ensuite, il y a aussi l'augmentation des normes qui peut augmenter le coût de production. Et des normes, les normes, il en faut. Quand la norme est là pour protéger la santé des gens ou autres, très bien. Mais quand elle est là, par exemple, entre autres, pour servir davantage concurrentiel à des gros sur des petits, moins bien, etc., etc. Alors, quelles normes, pourquoi, et quelles normes peut-on supprimer? Ensuite, il y a une chose qui n'a pas été dite, qui à mon sens est très importante.
Attendez, excusez, je ne vous entends pas.
Ah, pardon.
Oui, parlez.
Il y a une chose qui n'a pas été dite également, qui est très importante, c'est la qualité nutritionnelle de l'aliment produit. Parce que, voyez-vous, on compare les systèmes allemands, hollandais, français, etc. Oui, enfin, on dit ils ont une agriculture qui est plus forte, etc. Pour quel type de production? Alors, en France, on a différents types de production. Mais il faut considérer aussi le système d'exploitation agricole. Quel système d'exploitation agricole pour produire quelle qualité nutritionnelle? Alors, exemple, enfin, disons que ça, c'est une dimension très importante. Vous savez qu'au vu des problèmes de santé publique actuels, la Commission européenne a mis depuis plusieurs années un programme qui a pour but de financer des recherches sur la qualité nutritionnelle de l'aliment. Alors, parce qu'aujourd'hui, une vache n'est plus une vache, une tomate n'est plus égale à une autre tomate, etc. Donc, une différence de système d'exploitation, mais aussi, bien sûr, une différence de méthode de transformation. Il y a aussi les deux, c'est vrai. Enfin, voyez-vous, si on veut demain préserver la santé publique de la France, des habitants français, il faut aussi y penser.
Merci, merci beaucoup. Je crois qu'il y a déjà pas mal d'éléments là. On va s'arrêter là pour l'instant, puis on reviendra.
J'ai pas tout entendu, moi.
Ah oui.
Voilà, merci beaucoup. On prend une autre question à côté.
Oui, vous avez parlé de production agricole alimentaire. Bon, c'est, il n'y a aucun doute que c'est la production ou la fonction première de l'agriculture. Mais il y a aussi d'autres types de production, type environnemental, qualité de la vie, oxygène, etc. Est-ce qu'il y a une réflexion, ne serait-ce qu'à un stade embryonnaire, au plan politique ou syndical, sur quelque part la valorisation de cette fonction qui est gratuite et qui bénéficie à tout le monde? On a un peu l'impression que finalement c'est une fonction que vous remplissez. Alors il y a des effets négatifs de l'agriculture, hein, il y a un bilan positif et négatif qui varie en effet suivant le type d'agriculture, mais tout ça finalement n'est pas valorisé, si ce n'est dans les prix, entre guillemets, des produits bio. C'est, je dirais, un petit peu élémentaire et ça ne collectivise pas, si vous voulez, cette réflexion. Voilà, je voulais savoir quel était l'état de la réflexion, si elle existe.
Voilà, on va peut-être essayer de répondre un peu à, oui, à ces questions-là, puis on reprendra d'autres questions après. Oui, oui.
Bon, d'abord, la valorisation des services environnementaux. Alors, c'est vrai qu'effectivement... l'agriculture, il y a à la fois les externalités positives et les externalités négatives, comme disent les économistes. Les externalités négatives, quand on pense à la pollution des eaux, c'est la ville de Munich qui a fait le choix pour préserver les nappes phréatiques et son approvisionnement en eau potable d'avoir production bio sur ces zones-là. Alors, cette réflexion, elle commence à être prise en compte par l'Europe, puisque 30% des aides de la politique agricole commune sont liées à des fonctions écologiques, même si elles ont fait l'objet de multiples négociations, d'aménagements au cours des discussions de la politique agricole commune. Je crois, et l'idée commence à cheminer aujourd'hui, y compris dans les organisations professionnelles agricoles. Souvenez-vous, il y a quelques années, de syndicats disant « ben non, on ne veut pas être les jardiniers de la terre ». Et aujourd'hui, l'idée d'avoir une agriculture et des agriculteurs qui seraient rémunérés pour les services écologiques rendus par l'agriculture, cette idée chemine, puisqu'ils sont les... Ils occupent le territoire. Je l'ai souligné tout à l'heure. Je pense qu'ils ont un rôle capital à jouer demain dans ce domaine-là. Deuxième, la consommation des terres agricoles. Oui, effectivement, même si ça va un peu mieux, alors ça va peut-être un peu mieux aujourd'hui parce que à cause de la crise, la France, je ne sais pas si ça a une incidence sur les coûts de l'alimentation, mais clairement, la France gaspille ses terres. Et souvent, elle gaspille ses meilleures terres. Or, c'est un capital non renouvelable. Donc là, la réflexion chemine, mais chemine beaucoup trop lentement, alors que certains pays comme le Québec font mieux et ont engagé, mis en place des dispositifs pour freiner la consommation de terres agricoles. Sur les normes, c'est le grand sujet et ça fait partie actuellement de la colère des organisations syndicales. Trop de normes en France. Alors après, quelles normes supprimer? Je ne sais pas si je peux vraiment vous répondre aujourd'hui. Mais effectivement, je pense que le monde agricole croule sous la complexité des normes et qu'il y aurait probablement des simplifications à conduire.
Merci.
Alors, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas bien. Je n'ai pas complètement bien entendu la question. En tout cas, j'ai cru comprendre que la qualité nutritionnelle des produits, c'est très important. On est rentré en agriculture biologique, ça fait, je sais pas, 5 ou 6 ou 7 ou 8 ans. C'est bien évident que si on n'utilise pas de pesticides ou d'insecticides ou de produits de synthèse, ils ne se retrouvent pas dans la nourriture. Ça c'est sûr, enfin en tout cas, ou pas trop, parce qu'il y a quand même les voisins, puis il y a quand même l'air, quoi. L'autre remarque en disant que les agriculteurs ont une fonction de production alimentaire, moi je pense, enfin en tout cas, que les paysans ont aussi une fonction d'entretenir du paysage, d'ailleurs c'est dans le nom paysan. Alors c'est quelque chose que j'ai oublié de dire dans la présentation de l'exploitation. On a commencé, nous, à planter des haies bocagères parce qu'on pensait que c'était pas mal, je crois que dans les années 88-89. On en a planté, je crois, jusqu'en 2000-2001-2002. Et la Bretagne, puisqu'en région administrative, on est en Bretagne, mais en touche à Loire-Atlantique, en touche au Pays de Loire, a planté pour les éleveurs ou les propriétaires terriens qui le souhaitaient, a planté gratuitement à peu près autant de haies qu'on le voulait et les entretenait pendant 3 ans. Je crois que c'est dans l'idée de récupérer la qualité de l'eau. Alors, c'est souvent les gens qu'on avait le moins besoin qui plantaient le plus. Mais voilà quoi. Enfin, donc c'est vrai que l'agriculture a une fonction environnementale de l'air. Pour moi, ça me paraît évident. Et puis aussi, alors moi, c'est vraiment mon point de vue. Je pense qu'on doit garder les fermes comme des espaces ouverts, quoi, parce que la population est de plus en plus urbanisée. Et puis si on privatise, je sais pas comment dire ça, ou si on interdit aux gens de se promener à la campagne, ben je sais pas où les gens vont aller se promener, quoi. Donc c'est évident qu'il y a un équilibre à trouver entre la fonction de paysage, la fonction de qualité de l'air, qualité de l'eau aussi, parce que on va dire pour faire simple, le directeur d'une grande agence de l'eau est allé trouver les groupements d'agriculteurs biologiques des départements bretons du Grand Ouest contre l'avis de ses administrateurs qui étaient en agriculture industrielle, parce qu'ils se seront bien rendus compte que le coût de traitement de l'eau, ça fait aussi sans doute partie des dommages collatéraux qu'il y a en agriculture industrielle quand on parle des excédents commerciaux, le coût de traitement de l'eau est très très cher à l'hectare de surface agricole utile. Alors les chiffres qu'on m'a donnés, je ne vais pas vous les répéter parce que j'ai peur de me tromper d'un zéro, quoi. Mais c'est affolant, quoi. Non mais donc faut se renseigner là-dessus aussi. Moi je peux pas vous répondre, j'ai pas d'éléments, quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une fonction de paysage, et je pense que la fonction d'entretenir les paysages, de respecter l'environnement, ça correspond, je crois, enfin en tout cas nous, c'est ce qu'on croit au niveau de notre exploitation, à des produits de qualité qui nourrissent bien les gens, quoi. Enfin, voilà un petit peu dans quelle position on est, quoi. Mais sans en avoir de preuves scientifiques. Et puis, les études, on leur fait dire aussi un petit peu ce qu'on veut. Enfin, voilà, quoi. Et nous, c'est notre très forte conviction, quoi. Et ça maintient de l'emploi. Il y a beaucoup d'emplois à générer en agriculture. Et puis, il y a toute une... puisqu'il y a la crise laitière, porcine, de viande bovine en ce moment. Et il y a beaucoup d'émissions là-dessus. J'ai pris la peine d'écouter beaucoup d'émissions. Et aujourd'hui, on va dire les agronomes ou les gens qui ont un avis technique disent qu'il faut utiliser les écosystèmes, ce que la nature nous donne, garder la biodiversité et puis utiliser la chimie en agriculture conventionnelle ou industrielle vraiment en appoint, mais ne pas baser un système là-dessus, quoi. Et même si on veut le baser là-dessus, on sera obligé de changer puisqu'on va avoir un manque de matières premières. Et aussi l'utilisation très forte des engrais et de la mécanisation accélère le bilan carbone, quoi, et augmente le réchauffement climatique, quoi. Voilà, un petit peu les... Enfin, merci. Nous, comment on ressent les choses en tant qu'éleveur de base, quoi.
Merci. On va reprendre deux questions. Il y en a une en bas et une au milieu, là, tout de suite. Oui, allez-y, prenez le micro. Oui.
Oui, merci. Oui, j'ai passé toute ma carrière dans le secteur des fruits et légumes. Et effectivement, M. Jolivel, rassurez-vous, tous les producteurs de fruits et légumes ont pratiquement zéro de Bruxelles, qu'ils soient de culture traditionnelle.
Parlez plus fort, peut-être.
Oui, pardon. Rassurez-vous, tous les producteurs de fruits et légumes, qui était un peu ma spécialité, reçoivent quasiment zéro de Bruxelles. Le chiffre d'affaires.
Exact.
Le chiffre d'affaires de fruits et légumes européens, c'est 15% du chiffre d'affaires agricole, et ce secteur reçoit 3% des aides. Ce qui fait que, comme les producteurs n'ont pas été aidés, il n'y a aucune garantie européenne, ils ont dû s'organiser. Et vous avez cité Edgar Pisani, on peut rajouter le nom d'Alexis Gourvenec, avec la création des commandes producteurs. Et vous qui êtes en Bretagne, il y a des sacrés succès au niveau des producteurs de légumes. Prince de Bretagne, qui est une marque que j'espère que vous connaissez, et qui allie des producteurs en culture biologique, je crois que c'est 10% du chiffre d'affaires, et en culture dite traditionnelle. Et ma question va arriver, ils n'avaient aucune aide, ils ont dû s'organiser, et notamment en coopérative. Et quand même, on est assez fiers, nous, dans notre secteur, de savoir qu'une coopérative des Landes vend des kiwis des Landes au Japon, qu'une coopérative de pommes de Montauban vend des pommes de Montauban dans les supermarchés chinois, etc. Alors, et notre force, enfin la force du secteur des fruits et des légumes, c'est que 1 hectare, si je suis dans les clous, c'est l'équivalent d'emploi 3 salariés permanents. Un céréalier avec 100 hectares, à lui tout seul et quelques machines, il suffit. Donc si le producteur de légumes ou de fruits arrache son verger et fait des céréales, s'il peut le faire, il le fait, il travaillera moins et gagnera plus. Mais il fera perdre je ne sais combien d'emplois. Et ça veut dire que s'il n'y a plus de salariés agricoles, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de postiers, il n'y a plus d'écoles, etc. Donc ma question, un mot d'espoir, les coopératives, et notamment en Bretagne, ont permis à beaucoup de producteurs de s'en tirer correctement. Qu'en pensez-vous?
Merci. On va prendre la question devant.
Merci, bonsoir. Vous pointez du doigt des mauvais conseils des fournisseurs ou des acheteurs des agriculteurs qui ont pu encourager un endettement excessif. Alors, à votre avis, qui aurait dû donner une bonne vision aux producteurs et est-ce qu'à votre avis, les syndicats ont bien joué leur rôle?
Merci pour ces bonnes questions. On va en rester là pour l'instant. On va répondre aux deux et puis on essaiera d'en prendre d'autres. Voilà, qui veut se lancer?
Allez-y.
Alors bon, l'accompagnement des agriculteurs et notamment des jeunes, je pense que c'est une vraie question. Moi, j'ai l'impression, de ce que j'observe sur le terrain, que les organisations agricoles qui demandent à l'État de se restructurer auraient besoin elles-mêmes de simplifier leur organigramme et de se restructurer. De se restructurer pourquoi? Parce qu'on change de modèle agricole. L'environnement économique n'est plus le même. Ce qui veut dire que je crois qu'il y a, d'abord un défaut de formation pour les jeunes agriculteurs aujourd'hui. Alors, les lycées agricoles, c'est une formidable réussite française. Il y a un taux d'insertion qui est remarquable. Mais comment est-ce que les lycées agricoles accompagnent des jeunes dans un environnement économique qui est de plus en plus complexe? On forme des jeunes qui sont très bons techniquement, mais qui doivent rester, qui sont de toute façon des chefs d'entreprise, qu'on soit en bio ou qu'on se soit en conventionnel, on est toujours un chef d'entreprise. Donc, quand on regarde la volatilité des marchés, comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on fait partager aux jeunes agriculteurs ce nouveau monde. Et là, je pense que dans la crise actuelle, clairement, ça a fait défaut. Alors, malheureusement, la responsabilité, tout le monde se renvoie à la responsabilité. Je pense que la responsabilité, aujourd'hui, elle est collective. Elle est collective, mais elle oblige les jeunes à repenser leur projet. C'est d'abord de leur projet que doit naître leur organisation économique. Alors que quand on regarde le conseil aujourd'hui en agriculture, il y a de multiples structures qui sont autour des exploitations agricoles. Mais un vrai bon conseil stratégique, et il n'est pas toujours là.
Sur la question peut-être des coopératives.
Alors sur les coopératives. Alors les coopératives et leur rôle. Alors moi je suis persuadé que les. Alors les. Quand même un chiffre. Hein, les coopératives aujourd'hui, les coopératives agricoles aujourd'hui en France, c'est 40% de l'agroalimentaire. Donc c'est pas rien. Je crois que les coopératives, elles ont un rôle clé à jouer. Mais il faut aussi qu'elles repensent probablement leur gouvernance. Un certain nombre d'entre elles le font. Comment est-ce qu'elles associent les jeunes agriculteurs aujourd'hui à leur fonctionnement? Comment est-ce qu'elles font partager les enjeux économiques? Comment est-ce qu'elles assurent la redistribution aussi des dividendes aux agriculteurs sans sacrifier le moyen et le long terme? Il y a beaucoup de questions qui sont posées aux coopératives, notamment en Bretagne aujourd'hui, mais je suis persuadé qu'elles ont un rôle à jouer. De toute façon, le pire pour les agriculteurs demain, ce serait d'être isolés.
Alors, sur le maraîchage et les céréaliers, alors sur les coopératives, bon, il n'y a pas une coopérative, hein, je ne les connais pas toutes, bien sûr. Il y a des très, très grosses coopératives qui sont des petites multinationales ou même des grosses multinationales, enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce sont des véritables trusts, quoi, qui s'éloignent forcément du terrain et se regroupent entre elles parce que souvent, ils ont pensé qu'avec deux pauvres, on pouvait faire un riche. C'est à peu près ça comment ça se passe. Et puis, ben, on se regroupe, quoi. Et puis après, ben, pour les petites coopératives de maraîchage de la Bretagne, je ne les connais pas. Mais pour moi, vous avez dit quelque chose de très juste. Hein. Quelqu'un qui a 1 à 2 hectares en maraîchage bio, enfin en maraîchage, pardon, excusez, n'a pas d'aide ou quasiment aucune aide. Et c'est vrai que quelqu'un qui a 200 hectares en céréales touche les aides, ben, on multiplie par le prix qu'on touche à l'hectare, quoi. En plus, moi, je suis très, très respectueux des maraîchers parce que c'est un métier qui est très, très dur. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça qu'on a un manque de production, enfin, en maraîchage bio. On n'arrive pas à trouver de maraîchers bio qui tiennent dans le temps parce que c'est des métiers qui sont très durs. Pour moi, je pense, hein, qu'ils payent assez peu. Et non seulement les gens travaillent beaucoup, ils ont des petits revenus, mais en fin de parcours, puisque on en connaît des maraîchers bio, il n'y a pas de capital, quoi, il n'y a pas de patrimoine, il n'y a rien, quoi. Donc ce sont quasiment des pauvres ou des précaires. Voilà. Et en tout cas, encore une fois, par le biais des aides, on pourrait faire plein de choses, quoi. Si on donnait une aide à l'actif agricole, y compris, on pourrait imaginer plein de choses, considérer que s'il y a un hectare en bio, il y a 3 salariés, ben ça fait, je sais pas, le patron 3 salariés, ben ça fait 4. 4 personnes qui pourraient prétendre à des aides. Enfin, par les aides, on peut orienter beaucoup de choses. Autre question, par le biais des conseils. Alors, moi, je ne connais pas bien la banque, je ne connais pas bien les centres de gestion, je ne connais pas bien tout ça, mais c'est très, très difficile à un conseiller de gestion ou à un conseiller de chambre d'agriculture de donner un conseil. Imaginez un conseiller de chambre d'agriculture, ça fait 2 ans, il dit à un producteur de lait ou à un conseiller de gestion, t'es sûr là qu'il faut investir 800 000 euros ou 1 million d'euros, quoi. Bon, voilà, le jeune qui s'installe, il me donne un bon conseil, quoi. Donc, le commercial ou la coopérative ou l'industriel avec qui cette personne-là veut traiter, dit au commercial, non, finalement, je fais pas. Et souvent, l'agriculteur, puisque peut-être qu'il n'a pas le courage ou la formation, ou peut-être qu'il est trop jeune, il va pas dire, je fais pas, point. Il va dire, mon conseiller de gestion m'a dit qu'il ne fallait pas faire, quoi. Donc, vous imaginez bien qu'il y a un problème d'emploi dans l'industrie autour de l'agriculture. Et puis, ben, on va dire, le directeur du conseil de gestion, ben, il donne un avertissement sans doute, je ne sais pas comment ça se passe, moi je ne suis pas salarié, il donne un avertissement sans doute à son salarié, et puis le gars a vite compris que s'il a 40 ans, s'il a une maison avec des enfants, ben, il ne faut pas qu'il donne de conseils trop sérieux, quoi. Non, mais le système est bien verrouillé quand même, quoi. Non, le système est très très bien verrouillé. Parce que moi, je ne pense pas que ça vient de l'enseignement agricole ou des enseignants du monde agricole, ça vient plutôt qu'on ne les écoute pas, quoi. Et puis, il y a encore une fois tout l'appel de la modernité, de l'investissement, du paraître, etc., etc., quoi. C'est quasiment, enfin, comme un bien de consommation, quoi. Enfin, c'est mon ressenti, mais c'est pas du tout... c'est pas du tout construit, c'est pas du tout prouvé, quoi. Mais je connais des conseillers de gestion en privé qui sont en retraite, bah, il dit oui, on peut rien dire, quoi. Je connais un conseiller de banque, il a eu beaucoup de difficultés à finir parce qu'il était obligé de vendre des produits pas très corrects à ses amis, quoi, qui lui faisaient confiance. On est toujours, c'est les relations humaines, quoi. Moi, c'est mon point de vue, c'est pas très scientifique, mais c'est mon point de vue.
Merci, je crois que oui, Patrice Moyon voulait
dire. Oui, juste deux petites corrections. Alors, le conseil, je pense que le conseil en agriculture a été trop longtemps fiscal. Alors qu'aujourd'hui, avec des cycles qui sont de plus en plus volatiles, on voit que les agriculteurs ont besoin d'avoir de se positionner sur plusieurs années. Donc, le conseil, c'était de dire, pour payer moins d'impôts, vous avez intérêt à acheter un tracteur neuf. On l'a vu au moment de la crise du lait en 2009. Vous aviez, je me souviens de la manifestation au Mont-Saint-Michel, des éleveurs, des producteurs de lait qui jetaient du lait et qui étaient au volant, qui effectivement avaient du mal à boucler leur fin de mois et qui étaient au volant d'énormes tracteurs neufs, première chose. Deuxième chose, sur le conseil aussi, sur la réflexion autour des organisations syndicales. Moi, je pense que la force de, notamment de la FNSEA, nourrie par toute la jeunesse agricole chrétienne dans les années 60 et 70, ça a été d'être capable collectivement de penser au-delà des intérêts économiques particuliers à court terme. Il manque aujourd'hui, la France a la chance d'avoir à la tête de la FNSEA un grand capitaine d'industrie. D'ailleurs, je pense que c'est la première fois dans l'histoire du syndicalisme français qu'on a un président de syndicat qui a un tel pouvoir économique, puisqu'il est à la tête, il est président du groupe Avril, qui représente presque 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Quelqu'un qui a une vision de l'agro, une vision industrielle aussi pour l'agriculture française, qui est ambitieux, mais il manque... Globalement, je pense à la FNSEA, un travail de réflexion poussé autour de l'agriculture de demain.
Alors, le temps passe, on va s'approcher de la fin. Je voudrais terminer en prenant deux questions qui attendaient depuis longtemps. Je suis désolé, monsieur. Alors, on va en prendre une troisième, parce que c'est vous. Voilà, vous, les deux questions ici, puis ensuite au milieu. Alors, si elles peuvent être brèves.
Oui, donc d'abord je voulais dire que moi j'étais maire d'une petite commune en hyper-ruralité sur la célèbre diagonale de la désertification qui va de la Meuse en passant par le Massif central jusqu'au pied des Pyrénées.
Parlez plus fort.
En bordure du plateau de Langres et en milieu d'hyper-ruralité où il y a des éleveurs qui vivent bien. Donc on peut bien vivre dans le monde agricole. Ce sont tous des éleveurs qui se sont orientés vers des filières courtes ou de vente directe. Éleveur de porc, il élève ses porcs, il les abat, il transforme tout et il vend tout sur les marchés locaux ou en vente directe à des gens qui viennent chez lui. Pour le lait, sans être bio, ceux qui marchent bien en laitier, c'est ceux qui se sont affiliés avec les fromageries de Langres et des Poisses et qui ont le lait sous assurance qualité, donc circuit court, vente directe. En céréales, il y en a qui se sont lancés dans le bio, mais ils ne sont plus simplement céréaliers, ils sont en même temps boulangers. Ça marche très bien. Donc, il y a de l'espoir pour l'agriculture. On a beaucoup parlé de l'agriculture industrielle. Je dis que dans des régions comme les nôtres, où il y a 4 habitants au kilomètre carré, il y a des gens qui vivent très bien de l'agriculture. Ça, c'est mon premier point. Ma question, elle va être courte. Est-ce que les subventions ou les aides à la filière dont on nous parle, 700 millions d'euros plus 200 égale 900, vont redonner un cap?
Merci beaucoup. Oui.
Oui, bonsoir. J'essaie d'être bref. Donc, moi, je suis agriculteur dans le Nord, producteur de lait, également producteur de vergers, pommes, poires. On a aussi un gîte, on fait de l'accueil. Avec mon épouse, on s'associe avec un tiers 8 ans après l'installation pour répartir les charges de travail. Notre objectif, c'était une qualité de vie en premier. Donc, ce qu'on souhaite, c'est avoir une astreinte de la traite laitière un week-end sur 3, c'est ce qu'on arrive à faire. On fait de l'accueil à la ferme, donc on reçoit beaucoup d'élèves. Par l'intermédiaire du gîte, on rencontre beaucoup de monde aussi. On leur fait découvrir ce que c'est que l'agriculture, on leur explique ce que c'est. On essaye de leur montrer que l'agriculture, elle est multivisage. Je pense que c'est important de ressortir d'ici en ayant une idée que l'agriculture, c'est pas qu'un créneau. L'agriculture biologique, la vente directe, je pense que c'est très bien. Il y a la place pour des personnes qui le font, mais il y a aussi une agriculture qui fournit peut-être les GMS à 70%. Hein. Quand vous allez acheter quelque chose, si votre premier choix c'est d'aller dans les grandes surfaces, il faut bien les approvisionner. Si vous voulez faire vivre les agriculteurs qui ont fait un choix de proximité, il faut que vous fassiez, vous les consommateurs, d'abord un choix d'aller acheter chez eux. Mais c'est autre chose que d'aller dans la GMS. Donc je pense que nos pommes, on les vend en direct. Notre lait, c'est une coopérative qui a été créée dans les années 60. C'est la marque Candia, la marque Yoplait. C'est des marques de producteurs qui ont été créées. On s'est réunis c'est la coopérative de Marguerite, là, dans le Nord. Après, c'était les quatre cantons. La Clarore s'est réunie ensemble. Maintenant, on est 8 unions régionales. On se retrouve sur toute la France. 14 000 producteurs. 40% de nos produits, c'est des fromages. Hein, ça part sur essentiellement des AOC. On a toute la gamme de produits. Donc, on arrive à équilibrer. C'est dans une grande conjoncture qu'aujourd'hui, plus ou moins, avec les prix qui sont quand même pas très hauts, on arrive à sortir les marrons du feu plus que si on n'avait qu'un seul créneau. La volonté dans cette coopérative, c'est de rester proche des producteurs. Encore il y a 8 jours, on avait une réunion au JA, on avait invité tous les JA du département, il y avait 70 jeunes qui étaient là, et on organise des réflexions entre eux, et ça se fait dans toutes les régions de France, hein, parce qu'on est sur 70 départements, et on essaie de donner une dynamique, un aller-retour entre la base et les décisions qui sont prises au niveau de Sodiaal France. Quoi. Je pense que c'est important de savoir qu'il y a des choses qui existent, et qu'il y a des coopératives qui ont le souci d'être proches de leurs producteurs. Quoi. Et je pense que tous les modèles doivent avoir leur place. Et on va se grandir si on défend tout le monde. Quoi. Je suis pour l'agriculture bio. Moi, j'ai un fils qui veut revenir faire du maraîchage bio en faisant de la réinsertion aussi. Donc, je pense qu'il y a plein de formules qui existent.
Merci. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Troisième intervention.
Oui, Vincent Aumont, ancien éleveur de porc. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé du consommateur. On vient juste d'en parler un tout petit peu. Il ne faut pas oublier qu'il y a une partie de la population qui doit pouvoir se nourrir pour pas cher. Et tout le monde ne pourra pas consommer de la viande de bœuf bio ou du porc bio. Et si on n'arrive pas à faire ces produits bon marché en France, on les importera d'ailleurs. Et on ne saura même pas comment ils sont produits et avec quoi ils sont produits. Donc il faut absolument maintenir une production que j'appellerais de masse, qui permette de sortir des produits bon marché, parce qu'on a une partie de notre population qui en a besoin.
Merci. Nous terminons par des questions et des réflexions très importantes. Patrice Moyon.
Va-t-on retrouver un cap ? Effectivement, c'est la première... C'est la question qu'on peut se poser après les aides à répétition... lâchées par le gouvernement depuis le mois de juillet. Elles sont sans doute nécessaires compte tenu du triple choc que j'ai évoqué tout à l'heure, mais la France ne fera pas l'impasse, ne pourra pas se passer d'une réflexion sur ce qu'elle attend de son agriculture. Alors moi, ce qui m'inquiète un petit peu quand même parfois, c'est que même ici, quand j'entends parler d'agriculture industrielle, je ne pense pas qu'on puisse parler aujourd'hui d'une agriculture industrielle en France. Il y a des modèles. Je pense que la chance de la France, c'est peut-être de jouer la complémentarité des modèles. On a des circuits courts, on a des circuits longs. Les circuits longs, il y a trop de choux-fleurs en Bretagne pour la seule population bretonne, donc ces choux-fleurs, ils partent en Allemagne ou avant, ils partaient en Russie. En revanche, il y a une vraie carte à jouer. Et là, là-dessus, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé il y a quelques jours. Tout le débat autour de la restauration collective. C'est un marché qui représente 15 milliards d'euros par an. Et dans ce contexte un peu de tension, c'est intéressant de voir que la proposition de loi qui a été portée par Brigitte Allain, donc députée écologiste de Dordogne, a été adoptée à l'unanimité au Sénat, avec l'idée d'avoir une alimentation durable en restauration collective, à terme avoir 40%, dont 20% de bio. Donc ça fait partie de, à mon avis, ça fait partie des cartes à jouer, et ça fait partie aussi de la possibilité de jouer dans les différentes régions françaises au maximum la qualité et la valeur ajoutée. Sur les produits bon marché. Alors sur les produits bon marché, évidemment, dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs, la question de l'alimentation, elle est posée, c'est-à-dire à quel prix est-ce que j'achète. Je crois que on peut faire des produits de qualité qui soient à un coût raisonnable. On peut aussi essayer de mieux répartir la valeur ajoutée sur la filière alimentaire. Mais attention quand même, parce que on voit que l'une des difficultés de la Bretagne, par exemple, aujourd'hui, dans la production de porc, il y a une étude récente là qui vient de sortir sur la production en Europe, et la France est la plus mal placée en termes de valeur ajoutée en viande porcine. Donc, le développement de l'élevage et le développement de la production porcine en France, il passera aussi par cette capacité à créer de la valeur ajoutée. Et aussi, effectivement, à rendre accessible cette production aux consommateurs.
Merci.
Alors, deux ou trois choses. Déjà, une première chose. Alors, je n'ai pas les éléments. C'est vrai que le président de la FNSEA, c'est un capitaine d'industrie, sans doute. Il est président d'un groupe industriel. Alors, pour moi, ça n'a rien à voir avec de l'agriculture. Alors, j'ai pas tous les éléments, mais je sais qu'il traite du colza et qu'une partie de ce colza-là, on le remet dans le carburant agricole. Bon, le système est bien ficelé, puisque quand on traite ce colza-là pour le mettre dans le carburant agricole, il y a du colza, il y a du tourteau de colza qui peut remplacer le tourteau de soja, mais qui dit tourteau de colza, dit culture de maïs, puisque le maïs est une plante déséquilibrée. Alors, si j'avais pensé à ça, j'aurais pu regarder le sujet de plus près, mais je pense que ça demanderait à gratter le vernis, quoi. Voilà. Sur les la restauration collective, alors il y a des gens qui disent on doit orienter une partie des subventions dédiées à l'agriculture pour que les cantines scolaires, les hôpitaux, enfin les lieux publics aient de la nourriture de qualité, et on privilégierait ces circuits-là. Ça ne coûterait pas plus cher aux consommateurs, en tout cas. Les gens qui mangent en restauration hors foyer dans ces réseaux-là mangeraient une nourriture de bonne qualité, quoi. Ça, c'est un biais. Et puis sur la nourriture bon marché, alors moi j'ai pas tous les éléments, mais si on dit par exemple, alors à un moment donné, il n'y avait pas beaucoup de différentiel de prix entre la viande bovine bio et la viande bovine non bio, quoi. En lait, en ce moment, il y a beaucoup de différentiel de prix. Mais si on dit, par exemple, le lait bio est 50% de plus cher que le lait conventionnel. Bon, je suis d'accord. Mais si on dit aussi que le prix du lait qu'on incorpore dans le produit final ne représente que 10% du prix du produit final, puisque pour faire le travail entre les deux de transformer, on ne dit pas le produit final vaut 50% de plus que le produit conventionnel, quoi. Je pense que là, il y a sans doute des abus partout, puis on fait des affaires avec tout, quoi. Mais on va dire que si, il faudrait encore faire le calcul, là, mais si ça vaut 50% de plus, alors dans le produit final, ça fait 10% de 50%, donc ça fait plus que 5% de plus cher, quoi, si mes calculs sont bons, quoi. Puis je pense que tout le monde a le droit de bien manger, et puis peut-être on devrait s'arranger pour ou alors subventionner davantage l'agriculture de qualité, et un peu que la bio, l'agriculture de qualité, subventionner davantage l'agriculture de qualité qui amène un produit de base au même prix que l'autre. Il y a certainement des solutions, quoi. Mais je ne suis pas, il y a des gens qui sont experts là-dedans. Je pense à des gens comme Marc Dufumier, enfin d'autres personnes qui sont experts là-dedans, que je n'ai pas leurs arguments, quoi. C'est pas mon métier, quoi.
Voilà, nous allons en rester là. Je voudrais remercier en votre nom nos invités ce soir, de ce qu'ils nous ont dit, partagé aussi de ce qui s'est dit dans le débat, des remarques qui ont permis aussi de regarder ailleurs et de voir aussi, d'avoir aussi d'autres perspectives. Je crois que cela nous aide à mieux comprendre ce qui se passe dans le monde agricole, comprendre les difficultés, comprendre les enjeux pour l'avenir. Et nous voyons bien, je crois que ce n'est pas seulement le problème du monde agricole, c'est bien celui finalement de nous tous, de notre société, de notre consommation, de notre rapport à l'environnement. Et en nous écoutant ce soir, eh bien, je me suis dit qu'on était tout près, me semble-t-il, des sujets qu'aborde le pape François dans l'encyclique Laudato Si. Voilà. Un petit mot pour vous rappeler que vous trouverez des urnes à la sortie si vous souhaitez soutenir l'organisation de telle soirée. Vous donnez rendez-vous donc le mardi 1er mars pour notre prochaine soirée autour de l'enjeu de la gestation pour autrui. Merci de votre fidélité. Comme il y a 3 personnes de Bretagne sur cette estrade ce soir, je vous dis qu'en avez-vous.